les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Nicolas Bonucci, juriste au sein du cabinet Paul Hastings et ancien directeur juridique de l'OCDE, nous parle de la corruption internationale. Deuxième épisode, 20 ans de mise en place d'un cadre juridique.
Au commencement était le Watergate. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le deuxième épisode des Amphis d'Amicus dédié à la chronique d'une autre pandémie, la corruption internationale. Cet épisode sera consacré aux 20 ans de mise en place d'un cadre juridique. Pourquoi ai-je commencé cette émission en mentionnant le Watergate? Parce que c'est dans le cadre de l'enquête autour du Watergate que le chef de l'époque de la Securities Exchange Commission, la SEC, l'autorité des marchés financiers équivalent, M. Larry Sporkin s'est rendu compte que non seulement l'entreprise aéronautique Lockheed avait abondamment contribué à la caisse noire du Parti républicain pour la réélection de Richard Nixon, mais que cette même entreprise avait aussi contribué au financement de plusieurs leaders politiques étrangers. Le Premier ministre du Japon, le président de la République italienne, le prince consort de la reine des Pays-Bas. Ce qui a sidéré M. Sporkin a été de réaliser que ceci, à l'époque, n'était pas illégal aux États-Unis. L'indignation de Larry Sporkin a trouvé un relais au Congrès américain qui, en 1977, a adopté le Foreign Corrupt Practices Act, connu sous l'acronyme FCPA. Congrès qui a adopté cette loi à l'unanimité, dans un consensus bipartisan difficilement imaginable aujourd'hui. Ainsi, en 1977, les États-Unis devenaient le premier pays au monde à interdire le paiement de pots de vin au bénéfice d'agents publics étrangers, ce que l'on appelle aujourd'hui la corruption internationale. Ce qui veut dire, à contrario, qu'en 1977, tout le monde pouvait payer des pots de vin à des agents publics étrangers. Problème. Les États-Unis étaient non seulement le premier pays à prohiber de telles pratiques, mais ils étaient également les seuls au monde à le faire. Et donc, alors que le FCPA avait été adopté dans une indifférence quasi générale, dès sa mise en œuvre, il a été l'objet d'un feu de barrage nourri des entreprises américaines. En effet, les entreprises américaines considéraient, à juste titre, qu'une telle législation adoptée unilatéralement par les États-Unis les mettait dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux principaux compétiteurs, c'est-à-dire les Européens et les pays OCDE en général. C'est ainsi que le lobbying du Business USA a abouti à des aménagements de la loi en 1988, notamment par le biais de l'introduction d'une échappatoire à la loi pour les paiements dits de facilitation. On entend par là les petits montants octroyés à un fonctionnaire pour effectuer son travail, pour avoir son visa, pour avoir son permis de construire. Mais en fait, la plus importante évolution des amendements de 1998 a été l'introduction dans la loi d'une instruction ferme donnée par le Congrès américain à l'exécutif. Il faut multilatéraliser le FCPA. Et donc, en 1989, le secrétaire d'État américain de l'époque, Warren Christopher, propose la création d'un groupe de travail de l'OCDE sur les paiements illicites. À l'époque, le mot corruption était tabou. Donc on ne parlait pas de corruption, on parlait de paiements illicites. Pourquoi l'OCDE? Parce que c'est là qu'à la fin des années 80 se trouvaient tous les concurrents économiques des États-Unis. Et que le pouvoir d'influence des États-Unis y est plus important que dans une organisation universelle comme l'ONU. Les travaux du groupe de travail avançaient lentement dans les premières années, en raison de la résistance et la méfiance des pays européens, et notamment du couple franco-allemand. Mais la bombe politico-médiatique que constitue l'affaire Elf en 1994 change radicalement la donne. En 1994, l'OCDE adopte donc une première recommandation, suivie par une révision en 1996, qui annonce un traité devant être conclu en 1997. La Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, tel est son titre, sera donc signée au siège de l'OCDE à Paris le 17 décembre 1997 et entrera en vigueur moins de 14 mois après, le 15 février 1999. Un record. L'importance politique de la Convention est illustrée par le voyage éclair effectué pour la cérémonie de signature par Madeleine Albright, la secrétaire d'État de l'époque. Ainsi que par le fait que la France y appose une double signature, celle de Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances, et celle d'Elisabeth Guigou, garde des Sceaux. Les États-Unis ont donc réussi à multilatéraliser le FCPA, à introduire ce qu'ils appellent un « level playing field », c'est-à-dire, au moins en droit, des règles du jeu équitables. La Convention OCDE oblige ainsi tous les signataires à introduire dans leur ordre juridique interne une infraction de corruption d'agents publics étrangers. Elle ne vise que la corruption active, c'est-à-dire le corrupteur, car c'est là que réside le vide juridique. La Convention impose également la responsabilité juridique des personnes morales. J'entends bien responsabilité juridique, car la responsabilité pénale n'a pas pu être introduite, notamment en raison de l'opposition de l'Allemagne, qui, à l'époque et encore aujourd'hui, ne connaît pas de responsabilité pénale pour les entreprises. En France, la Convention OCDE est transposée par la loi 2595 relative à la lutte contre la corruption, qui est adoptée au grand chagrin du patronat, car il s'agit bel et bien d'une révolution de l'ordre juridique et de pratiques communément admises, beaucoup plus qu'une simple évolution du droit. La méfiance reste de l'ordre de mise, mais la Convention OCDE marque le début d'un mouvement de droit conventionnel quasi sans précédent dans l'histoire du droit international. Dans les années qui suivent, diverses conventions régionales sont signées dans le cadre du Conseil de l'Europe, dans le cadre de l'Union africaine et dans le cadre de la Ligue arabe, ainsi que la seule convention universelle, la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui entre en vigueur en 2005. Le terme de corruption, encore tabou au début des années 90, devient un hit dans les négociations internationales visant à donner une meilleure gouvernance au monde. De nombreux textes non juridiquement contraignants viennent étoffer les devises conventionnelles. Recommandations, lignes directrices, plans d'action, déclarations conjointes, principes à haut niveau. Mais la lutte contre la corruption internationale prend aussi une autre dimension, beaucoup plus globale, avec l'arrivée sur la scène économique internationale de nouveaux acteurs. La Corée du Sud, les tigres asiatiques, suivis par les deux éléphants d'aujourd'hui, l'Inde et bien évidemment la Chine. Dès lors, l'équilibre géopolitique trouvé lors de la négociation de l'OCDE s'en trouve fragilisé. Lors des négociations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, une lutte acharnée oppose les pays OCDE qui souhaitent l'insertion dans la Convention des Nations Unies d'une disposition semblable au texte de la Convention OCDE. Je vous rappelle que la Convention de l'OCDE est entrée en vigueur avant la Convention des Nations Unies. Et un certain nombre de pays en voie de développement qui n'étaient pas convaincus, loin de là, de la nécessité de se voir imposer les mêmes règles. La nécessité d'un nouvel équilibre des règles du jeu pousse d'ailleurs les pays OCDE, sous présidence française à l'époque, à établir un groupe de travail anticorruption dans le cadre du G20, et ce, dès 2010. En 2016, le Premier ministre britannique, David Cameron, accueille le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement exclusivement dédié à la lutte contre la corruption, notamment internationale. Cette année, 2020, le G20 va organiser la première réunion ministérielle sur ce thème, et en 2021, sera organisée la première session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'anticorruption. Depuis 20 ans donc, la lutte contre la corruption constitue un point de consensus de la communauté internationale. Ce qui n'est déjà pas si mal, compte tenu de la fragmentation croissante du système international que nous vivons. Et pourtant, les affaires, parfois retentissantes, parfois moins, continuent à éclater. Les entreprises continuent à faire face à de nombreuses sollicitations. Les phénomènes de corruption endémique ou systémique ne semblent pas avoir diminué, bien au contraire. Écoutons à ce propos une interview donnée par le prince Bandar de la famille royale saoudite au moment de l'affaire BAE, British Aerospace, qui a secoué la fin du mandat de Tony Blair au Royaume-Uni au milieu des années 2000.
The way I answer the corruption charges, is this. In the last 30 years, we have implemented a development program that was approximately close to $400 billion worth. Okay? Now, look at the whole country, where it was, where it is now. And I am confident, you know, after you look at it, you could not have done all of that for less than, let's say, $350 billion. Now, if you tell me that building this whole country and spending $350 billion out of $400 billion, that we had misused or get corrupted with $50 billion, I'll tell you yes, but I'll take that any time. There are so many countries in the third world that have oil that are still 30 years behind. But more important, hey, who are you to tell me this? I mean, I see every time all the scandals here or in England or in Europe. What I'm trying to tell you is, so what?
Dans cet extrait, le prince Mandar dit très simplement, de façon très cynique, que s'il faut un peu de corruption pour le développement de son pays, il n'a aucun problème avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il considère un peu de corruption 50 milliards sur 450 milliards. Le cynisme de cette interview ne doit pas nous conduire à considérer que la mise en place de ce nouveau cadre juridique n'a rien apporté. Mais elle doit nous faire réfléchir sur certaines des asymétries auxquelles nous faisons toujours face aujourd'hui. La première vise la mise en œuvre entre pays signataires de la Convention OCDE. Ainsi que le rappelle régulièrement l'OCDE et des ONG comme Transparency International, tous les pays signataires ne jouent pas vraiment le jeu et ne sont pas particulièrement proactifs. La France a été l'un des mauvais élèves pendant longtemps. Mais depuis quelques années, des efforts réels ont été entrepris avec la création du PNF, du Parquet National Financier, de l'Agence Française Anticorruption et de la loi Sapin 2. La circulaire diffusée au mois de juin 2020 par la ministre de la Justice sur une politique pénale en matière de corruption internationale marque les esprits par sa clarté et son ambition, pourvu que son esprit et sa lettre soient bien appliqués. Il existe également une asymétrie entre les parties à la Convention de l'OCDE et les autres États, fussent-ils signataires de la Convention des Nations Unies. Il est difficile de comprendre et d'admettre pourquoi tous les pays du G20 ne sont pas partis à la Convention de l'OCDE. Or, à ce jour, cela n'est toujours pas le cas. Quatre d'entre eux, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, ne sont toujours pas partis à la Convention de l'OCDE. Pire, si je puis dire, l'Inde et l'Arabie Saoudite n'ont même pas introduit dans leur législation interne l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, alors qu'ils sont obligés de le faire au titre de l'article 16.1 de la Convention des Nations Unies dont ils sont partis. Le level playing field qui avait été créé par l'OCDE en 1997 l'est beaucoup moins car des acteurs économiques importants ne sont pas partis à la Convention de l'OCDE. La dernière asymétrie concerne le fait que la communauté internationale a mis plus l'accent sur la corruption active que sur la corruption passive. Comme je l'ai rappelé, c'est là où le vide juridique résidait à l'époque de la négociation de la Convention de l'OCDE. Mais, fin 2018, l'OCDE a publié un rapport qui a analysé 55 affaires dans lesquelles le corrupteur et le corrompu étaient tous ressortissants de pays partis à la Convention et qui ont abouti à une sanction du corrupteur. Alors que dans ces 55 cas, le corrupteur a donc été sanctionné, seulement 20% ont également abouti à une sanction du corrompu, alors même qu'il s'agit de ressortissants d'un pays parti à la Convention de l'OCDE. Cette asymétrie est difficile à admettre et à comprendre, et elle suscite beaucoup de critiques de la part du monde des entreprises, et à juste titre. Pour que la lutte contre la corruption internationale reste crédible, il faut donc s'attaquer sans tarder à ces asymétries. Mais pour s'attaquer à un problème et un phénomène criminel, il faut aussi comprendre comment ce phénomène criminel se développe. Et c'est ce que nous ferons au prochain épisode dédié aux acteurs de la corruption internationale.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasny. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.